Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle de démocratie illibérale depuis le début de la semaine, telle que l'incarne en tout cas Viktor Orban en Hongrie et Jaroslaw Kaczynski en Pologne. Est-ce qu'elle est un legs du passé ou un pas dans la direction nouvelle prise par des pays comme la Russie de Poutine et la Turquie d'Erdogan dont on parlait justement à l'instant?
C'est la question de fond, Florian, parce qu'il est trop facile de considérer les assauts lancés par ces gouvernements autoritaires, agressifs envers la magistrature et les médias publics, on l'a vu, comme autant de preuves de l'immaturité politique de leur population. On n'est jamais trop réservé contre la tentation d'essentialiser les cultures nationales. Il n'y a pas de fatalité qui rendrait les pays d'Europe centrale inaptes à la démocratie libérale. La preuve, dans les deux cas qui nous occupent, en serait fournie par les excellentes conditions dans lesquelles ils ont franchi, en 1989, l'étape délicate de la transition du communisme à la démocratie. C'est dans ces deux pays, et dans ces deux-ci seulement, que la passation de pouvoir a pu s'effectuer par une sorte de « gentleman agreement ». En Pologne, le Parti communiste, constatant son incapacité à gouverner le pays, invite les dirigeants du syndicat Solidarité, en février 1989, à discuter les conditions d'une forme d'association au pouvoir. L'accord dit de la table ronde aboutit aux premières élections semi-libres depuis la prise du pouvoir de l'après-guerre. En juin, c'est un raz-de-marée pour l'opposition. Solidarité rafle tous les sièges disponibles pour une compétition ouverte. Et dès le mois d'août est formé sous la direction de Mazowiecki le premier gouvernement non communiste du bloc soviétique. Dans le cas hongrois, même table ronde associant l'opposition, et c'est le Parti communiste lui-même qui, après avoir abandonné toute référence au communisme en octobre 89, déclare le passage du pays au pluripartisme. Les premières élections entièrement libres, cette fois, ont lieu en mars de l'année suivante et elles sont remportées par le Forum démocratique de centre-droit de Joseph Antal. Mais c'est précisément cette sagesse des deux partis décidé à éviter des affrontements qui auraient pu se révéler sanglants, qui est à présent reproché aux héritiers de la transition. Car dans les deux pays, les négociations entre les communistes au pouvoir et l'opposition anticommuniste qui allait les y remplacer ont eu lieu dans une discrétion bien compréhensible. Nul ne pouvait en effet anticiper quelles seraient les réactions du grand frère soviétique. Mais depuis, toutes sortes de courants d'extrême droite n'ont cessé d'accuser les négociateurs de l'époque et leurs héritiers politiques d'aujourd'hui d'avoir été de mèche avec les communistes. Le mythe du complot des élites ressurgit régulièrement. Et le Fidesz d'Orban, comme Droit et Justice de Kaczynski, ne sont pas les derniers à le répandre. Ainsi s'expliquent en particulier les calomnies visant l'ancien dirigeant de Solidarité et ancien président de la République polonaise Lech Wałęsa, qu'on appelle Lech Wałęsa en français, accusé d'avoir été un informateur secret de la police communiste. En Hongrie, Orban a qualifié sa victoire électorale de « révolution par les urnes » pour signifier que la vraie rupture politique avait eu lieu dans ce pays en 2010 et non pas en 1989.
Alors on assisterait dans ces deux pays à une tentative de réécrire l'histoire nationale, Brice ?
Mais oui, parce que le déboulonnage de la statue de Lech Wałęsa vise manifestement à l'édification de celle de Lech Kaczynski, lui aussi ancien président de la République, mais surtout frère jumeau du président du parti au pouvoir, disparu dans un accident d'avion en 2010. Les travaux produits par l'Institut de la mémoire polonaise, organisme officiel chargé de faire, je cite, « toute la lumière sur la période communiste », rappellent parfois les photos truquées de l'URSS stalinienne. De même qu'on y effaçait des clichés de Léon Trotsky et d'autres épurés, ainsi on cherche à effacer Wałęsa au profit de Kaczynski, devenu le vrai héros qui aurait terrassé le monstre communiste. Et la Troisième République polonaise, celle de Wałęsa, est invalidée, de fait, comme une imposture. Un régime imposé au peuple polonais par les élites cosmopolites, suivez mon regard, téléguidées par Bruxelles. La preuve, Donald Tusk, son incarnation, siège à présent comme président du Conseil européen. Comme vous le voyez, tout se tient dans ce scénario paranoïaque. En Hongrie, l'histoire nationale est l'objet de manipulations de même nature et le passé fait l'objet de reconstructions éminemment politiques. Le gouvernement a créé là aussi son propre institut de recherche historique, Veritas. Celui-ci procède à une odieuse réhabilitation du régime de l'amiral Horthy, allié de l'Allemagne nazie, l'érection d'un monument ultra-kitsch aux victimes de l'occupation allemande de 1944 a donné lieu à des protestations, la participation du gouvernement hongrois des croix fléchées au massacre des Juifs de Budapest en octobre et novembre 1944 est un fait avéré et ce n'est pas le fait des nazis. Mais dans les deux pays, la nouvelle historiographie tend à présenter les peuples hongrois et polonais uniquement comme des victimes, victimes des nazis d'abord, des communistes ensuite, en minimisant ou en niant franchement toute participation au génocide des Juifs. Nos mémoires nationales en Europe occidentale furent héroïques, Napoléon, De Gaulle, celle des petites nations d'Europe centrale est victimaire. De leurs martyrs d'autrefois, réels dans le cas de la Pologne, mais largement imaginaires dans celui de la Hongrie, leurs gouvernements actuels se servent comme de créances auprès de la vieille Europe. Ils nous réclament en fait des droits particuliers au nom de ce fameux martyrologue.